d'ici.
Oui.
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 Bonsoir,
enfin, c'est Côté Club.
Ah oui, j'adore. Bienvenue à toutes et à tous dans ce magazine de l'actualité musicale, tout pour la musique chaque jour de 22h à 23h. Côté Club, c'est à podcaster et à télécharger. C'est le rendez-vous de toute la scène française, inclusive et plus ses affinités. Ce soir, trois invités sinon rien, Horus, Grégoire Hetzel et Gabi Hartmann. Bonsoir à vous trois.
Bonsoir.
C'est collégial, j'adore ça. Ça me rappelle mes colonies de vacances. Trois BO de films, sinon rien pour vous, Grégoire Hetzel. Celle du film de Nicole Garcia, Amant, qui sort demain en salle, en attendant les films d'Arnaud Desplechin et de Louis Garrel. Gabi Hartmann, c'est votre premier EP, Always Seem to Get Things Wrong. 5 titres en anglais, bien mieux prononcés que moi, en français, en brésilien, et vous serez en live. Formation trio, bien entendu, ce soir pour nous. Et enfin, Horus. Révélation du chantier des Francopholies 2021. Vous signez votre premier album, Chimera ou Chimera, un disque à deux directions conçu entre Paris et La Réunion, entre pop et Maloya, entre anglais et créole, entre. C'est peut-être une position politique pour l'artiste queer que vous êtes. Marion ?
Moi, je vous déroulerai le fil de l'actualité musicale, un fil qui sent la magie de Noël, Laurent.
La magie de Noël. Côté Club, c'est ouvert entre vos oreilles.
Côté Club, Laurent Goumard. Sur France Inter.
Santé, c'est pour ouvrir la séance. Celle de Stromae va bien, merci. La preuve avec ce premier single qui annonce un nouvel album à venir sur France Inter.
À ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Rosa, Rosa. Quand on fout le bordel, tu nettoies. Et toi, Albert. Quand on trinque, tu ramasses les verres. Céline, Bataire. Toi, tu te prends des vestes au vestiaire. Arlette, arrête. Toi, la fête, tu la passes aux toilettes. Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas. Pour une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Bonne manière. Pourquoi je ferais semblant? Toute façon, elle est payée pour le faire. Tu te prends pour ma mère? Dans une heure, je reviens. Que ce soit propre, qu'on puisse y manger par terre. 3 heures que j'attends. Franchement, il est fabrique ou quoi? Heureusement que c'est que de verre. Appelle-moi ton responsable. Et fais vite, elle pourrait se finir comme ça. Ta carrière. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Frottez, frottez. Mieux vaut ne pas si frotter. Si tu ne me connais pas, brosser, brosser. Tu pourras toujours te brosser, brosser. Si tu ne me respectes pas. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Ou infirmière, chauffeur de camion, hôtesse de l'air, boulanger ou marin pêcheur, un verre aux champions des pires horaires, aux jeunes parents bercés par les pleurs, aux insomniaques de profession, et tous ceux qui souffrent de peine de cœur, qui n'ont pas le cœur aux célébrations.
Stromae pour ouvrir la séance, ça vous va, Horus ?
Très bien.
Gabi Hartmann ?
J'adore.
Grégoire Hetzel ?
Je suis ravi, je pense qu'il avait arrêté en plus.
Ben oui, il avait arrêté pendant des années, il est revenu suite à...
Donc il est guéri.
Oui, On peut dire ça. On vérifiera ça. Santé, c'est Santé. Le titre. Gabi Hartmann, Grégoire Hetzel et Horus sont nos invités côté club ce soir. Horus avec enfin un premier album. On vous avait reçu pour le EP précédent. Horus, nom de scène pour Bastien Picot, qu'on a connu dans d'autres projets. Choriste pour Fred Wesley, Charles Aznavour, Yael Naïm, Stevie Wonder. Il y a eu un groupe aussi, on va en parler. Qu'est-ce que ce nom raconte, Horus?
Horus, il raconte beaucoup de choses.
A-U-R-U-S.
Exactement.
Mais on pense aussi à H-O-R-U-S.
Effectivement, il y a pas mal de symboles de la mythologie égyptienne du dieu Horus qui m'ont beaucoup parlé. Et notamment, cette histoire autour de l'intuition. Et je crois que cet album, il a beaucoup été créé avec ça, avec l'intuition.
Premier album, donc, Chimera, là encore, c'est un titre chargé, parce qu'une chimère, c'est un monstre, une créature composite. En quoi ça donne une clé d'écoute pour cet album, ce titre?
Pour moi, en fait, cet album, c'est justement une chimère. Alors, pour moi, c'est pas forcément monstrueux, en
fait. Mais un monstre, c'est pas forcément négatif.
Ah, bien vu. Ok.
Vous alors, ne me coincerez pas, monsieur Horus.
Je prends. Très bien. Non, mais en fait, pour moi, c'est un peu... tout à l'heure, vous disiez, justement, c'est entre La Réunion, entre Paris et La Réunion. Ouais. Quelque part, c'est une espèce de chimère musicale pour moi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une espèce de rencontre entre tradition et modernité, avec des percussions traditionnelles de La Réunion, des effluves de Maloya, mais tout ça aussi dans un écrin un peu plus électronique, un peu plus actuel. Et c'est aussi une chimère dans les termes, en fait, dans les thèmes, pardon,
qui sont abordés.
Souvent, je dis que je crois qu'on est des chimères des temps modernes, un peu tiraillés avec notre côté bestial, animal qu'on met sous le tapis comme ça, qu'on veut pas trop voir, le côté homo sapiens.
Marion ne le met pas du tout sous le tapis,
jamais.
Je peux vous dire.
Jamais.
Mais voilà, il y a le côté homo sapiens sapiens et puis le côté humain 2.0. Et du coup, je questionne beaucoup notre place autour de tout ça.
J'imagine que nos invités se questionnent aussi sur vous et sur l'identité visuelle que vous proposez. Alors bien sûr, c'est purement radiophonique, donc je vais quand même décrire. Vous avez une coiffe avec une sorte de grand soleil sur le visage et autour du visage, encadré par trois rangs de colliers de perles.
Que vous pouvez entendre.
C'est magnifique.
ASMR.
On dirait ma grand-mère. À quel moment vous avez construit cette identité visuelle avec donc cette coiffe, en fait, Horus?
Pour moi, ça a été vraiment dès le début. En fait, il y a vraiment un lien pour moi entre la musique et le visuel. Même d'ailleurs, quand je compose, je vois des images et c'est d'ailleurs pour ça que j'aime m'investir toujours dans la réalisation des clips et aussi sur scène l'aspect visuel est là aussi. Donc j'ai travaillé avec Lia Seval qui est une styliste et qui m'a confectionné cette coiffe sur mesure. Voilà.
Alors on vous a connu, parce qu'on va quand même parler du son, avec ce son-là, c'était la période Threesome Sisters. Cette période-là est derrière vous, Horus?
Oui.
Complètement. Pour revenir aujourd'hui en solo, tout seul.
Oui, effectivement, c'est une période qui est derrière moi, mais qui continue finalement de
d'irriguer ce que
nourrir,
vous travaillez.
Exactement.
Alors ça, c'était le son avec le groupe Threesome Sisters. Vous revenez en solo avec ça. The truth is, we're strong. Stardust, un extrait de cet album Chimera, un album coupé en deux, créole, anglais, électro-maloya, en lien avec la racine réunionnaise. Ça vous permet de dire quoi, ces inspirations différentes, et surtout ces deux langues qui n'ont absolument rien à voir, le créole et l'anglais, qui n'ont même pas de racines communes, je
Exactement.
Crois. Exactement.
Et pourtant, je trouve qu'elles dialoguent plutôt bien.
Surtout
ensemble.
Qu'à l'intérieur même d'une chanson, vous passez de l'une à l'autre. Il n'y a pas des titres en anglais et d'autres qui seraient en créole.
Mais non,
en tout
c'est
cas,
ça.
Ça passe de l'un à l'autre.
Exactement. En fait, je crois que tout à l'heure, je parlais d'intuition. Je crois qu'en fait, j'ai juste essayé d'être fidèle à moi-même. Moi, j'ai beaucoup été nourri à la pop anglophone. J'ai nourri très tôt une passion pour les langues, et notamment la langue anglaise. Et du coup, bah voilà. Après, il y a le créole aussi, qui est ma langue maternelle. Et c'était assez évident pour moi, en fait, de...
D'évacuer le français?
Pour moi, il n'a pas été évacué. C'est vraiment, encore une fois, quelque chose qui... J'ai rien du tout contre le français. J'aime beaucoup cette langue. Et d'ailleurs, j'écris, mais pour l'instant, c'est plutôt au rang de poème ou d'essai. Et un jour, peut-être que ça viendra en musique, mais il faudra que ça résonne pour moi.
Tout à l'heure, vous parliez des instruments que vous utilisiez. Pas mal d'instruments traditionnels, hein, réunionnais, mais ouais. que vous utilisez dans une, on va dire, dans une conception, dans un son contemporain. Vous savez jouer de ces instruments?
Oui, bien sûr. Ouais.
Lesquels, par exemple?
Le cayam.
Je sais pas ce que c'est.
Alors le cayam, j'ai des amis qui me disent, mais on dirait un plateau à fromage.
C'est ça. Ouais.
Alors c'est un espèce de plateau comme ça, avec en fait c'est fait avec des tiges de fleurs de canne, avec des graines, donc c'est quelque chose qui va vraiment avoir un son.
Ah oui, mais je vois très bien ce que c'est, ouais.
Voilà.
Comme celui de la mer, en effet.
Exactement. Et du coup, qu'on joue sur les accents du maloya. Il y a aussi le roulaire, qui est cette espèce de grosse percussion sur laquelle on s'assoit et qui va donner des espèces d'infrabasses que j'aime beaucoup jouer aussi, qui porte cette image de transe un peu que j'ai voulu aussi retranscrire dans l'album. Le piquer, le sati, donc là c'est du bambou ou une espèce de feuille de tôle avec des vis qui vont vibrer quand on tape dessus et qui vont avoir un son un peu... particulier.
Vous connaissez tous ces instruments, Gabi Hartmann?
Oui,
oui, parce qu'elle a fait des études d'ethnomusicologie.
Ouais. Oui, mais pas que. Enfin, c'est surtout que la musique réunionnaise me passionne depuis quelques années et que j'ai vu Daniel Waro il y a 5 ans de ça, je crois, et j'avais été bouleversée, quoi. Et j'étais dans ce même. Je suis allée. J'ai voulu apprendre, en fait. Donc j'étais dans une chorale. Où on apprenait des chants réunionnais avec Jean-Didier Waro.
Ok, yes.
Voilà.
Super.
Et mon rêve, c'est d'y aller, en fait, à la Réunion.
Il faut venir.
Vous êtes allé absolument partout. Vous pouvez quand même aller à la Réunion, c'est quand même moins dur que d'aller là où vous êtes allé. Ouais. On en parlera tout à l'heure. Ouais. Alors, on va vous écouter, Horus, dans un extrait de Chimera, Kourou, une explication de texte, peut-être, parce que c'est un titre qui témoigne vraiment de votre engagement auprès des minorités. Et curieusement, on y entend des sons d'animaux, des rugissements. En fait, c'est une sorte d'hymne queer.
Oui, pour moi, ce morceau, déjà, il signifie garder la tête haute. Et c'est une invitation vraiment à être qui l'on est sans concession. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une espèce de standardisation qui a lieu. Et finalement, pour moi, c'est une invitation à ne pas forcément rentrer dans le moule et embrasser ses différences et en faire une force. Et voilà, c'est effectivement...
Mais c'est intéressant parce que dans le clip, puisque vous veillez... Oh, la mise en scène du clip, vous avez mis en scène des femmes trans, vous défendez des valeurs LGBT, on en avait parlé lors de votre première venue. Comment s'est perçu tout ça à La Réunion?
Disons qu'à La Réunion, pour le vivre ensemble en ce qui concerne la couleur de peau, les religions, on est plutôt bon élève, ça se passe plutôt bien. Dès qu'on parle de questions de genre, d'orientation sexuelle, c'est un peu plus compliqué, on va dire qu'il y a encore du travail à faire, mais cette année a eu lieu la première marche des visibilités.
Exactement,
LGBTQIA+, ouais. À La Réunion. Et donc, en fait, c'est en train de bouger. Et moi, je suis content de pouvoir constater ça et aussi d'apporter ma pierre à l'édifice. Voilà.
Dernière question par rapport à ça. Elle est où, la Piante?
La Piante.
Ouais, est-ce que c'est la Piante, Grégoire Hetzel?
Pas du tout.
Il va vous expliquer.
Alors, la Piante, c'est mon alter ego drag queen qu'on retrouve dans ce clip-là.
Ah oui.
Et en fait, pour la petite histoire, une Piante à La Réunion, c'est une femme qui aime bien faire son intéressante. Et du coup, mon nom de drag a été trouvé le jour du tournage. C'est-à-dire qu'à un moment, je me dis, est-ce que ce serait pas un mix entre une Piante et Beyoncé? Rien que ça.
C'est tout vous. Tout de suite. Coucou.
Ça nous a fait marrer, alors c'est parti.
Tout de suite, coucou sur France Inter.
Your head up, let them vilify. You know damn well they just want you to line up. Keep your head up, let them vilify. You know damn well they just want you to line up. Keep your head up, let them vilify. You know damn well they just want you to line up. Keep your head up, let them vilify. You know damn well they just want you to line up. Yeah.
c'est au qui bloqué de mon autre mi au droit sous demain. C'est moi qui ou calque tout de mon n'est pas comme n'est pas valable. La couille faut expliquer à moi. Jamais la qui demande pas. Ta marin va causer vie, jamais rosa. Céline a droit, pousse d'accord. Les pousses à mi rot pas aux accords. Mille et sept mille et des vieux ou tête. Si ou y'aime pas la mienne, pas la peine causer. Si ou roue votre kiel, capon vous dire, risque à poudre les capons qui connaît. But I won't bite ya. Unless you ask me to. Even if I did, it will not contaminate ya. Keep your head up, let them vilify. You know damn well they just want you to line up. Keep your head up, let them vilify. You know damn well they just want you to line up. Keep your head up, let them vilify. You know damn well they just want you to line up. Keep your head up, let them vilify. You know damn well they just want you to.
Grégoire Hetzel, vous qui êtes compositeur, compositeur aussi de musique de film, et pas que, il y a même eu un album, le premier de Marie Modiano, vous avez un répertoire très élargi, comment vous écoutez ce titre, cette musique d'Horus? Vous voyez intéressé par toutes les fluctuances.
Ah, moi j'adore, c'est très très imagé d'ailleurs. On est vraiment plongé, il y a une espèce de luxuriance. Vous parliez de la Réunion, moi je connais pas la Réunion, mais j'imagine que c'est presque géographique comme musique. Et on entend l'eau d'ailleurs, non? Vous jouez avec l'eau, c'est
oui,
ça.
Oui, au début j'ai fait des percussions aquatiques.
Ouais. Ah, des percussions aquatiques au départ.
Non, j'adore, c'est très riche. Enfin, instrumentalement, c'est une orchestration que je fais pas, par exemple. Mais... pourquoi pas, j'adorerais. Enfin, je trouve ça assez sublime. Quoi.
Merci beaucoup.
On reviendra sur votre dossier tout à l'heure, Grégoire Hetzel, sur ce répertoire très élargi que vous avez. Mais tout de suite, eh bien, c'est les nouveautés nouvelles. Pas du tout, c'est le fil de l'actualité. Pénélope, ce soir, ce n'est pas Fillon. C'est
ben
vous,
non.
Parce que vous, vous bossez.
Oui.
Côté club, le fil.
Préviens tout de suite, mais montre jamais ça à personne.
Mais si, on va le montrer à tout le monde, parce que c'est un raz-de-marée, un tsunami. Il n'est pas encore sorti, personne n'en a entendu la moindre note, mais Civilisation, le nouvel album d'Orelsan est d'ores et déjà disque d'or, avec plus de 50 000 exemplaires précommandés, 15 éditions de CD différentes, dont 10 déjà épuisées, 4 accords Arena complets, on vient d'en rajouter un cinquième, et hop, le tour est joué, simple, basique.
Basique, simple, simple.
Numéro 1 dans le rap, c'est pas mal. Pour un mec de province.
De la lumière partout avec Clara Luciani qui devient non pas la fille du Père Noël, mais la marraine des illuminations des Champs-Élysées à Paris cette année. La chanteuse, dont le nom signifie petite lumière, allumera le feu dimanche 21 novembre en branchant les guirlandes rouges qui s'étendent sur près de 400 arbres de la Concorde à l'Arc de Triomphe. Santa Clara, brillez pour nous. Et qui dit lumière dit Noël, on connaît la tradition anglo-saxonne des albums de Noël, Elvis, Mariah Carey, Paul McCartney ou encore Wham. Mais en France, ça ne prend jamais vraiment, à part l'incontournable Petit Papa Noël de Tino Rossi. En 2017, Vianney avait tenté moins sucré et plus engagé avec son labello.
Il y avait des types qui vendaient du vin chaud à d'autres types qui se pelaient les os. Parmi les chants de Noël, il y eut un parfum de fleurs, de frissons, un début.
Vianney qui rejoindra Noël et nous. Noël et nous, c'est le projet porté par Louane, Emmanuel Moir, Bilal Hassani, Anne Silla, sur des reprises de titres cultes comme Santa Claus, Is Coming to Town ou Last Christmas par Cœur de Pirate.
Oh, to oh,
C'est Julien Doré.
Pas mal. Vous avez reconnu la voix. Est-ce que vous allez reconnaître la langue?
Japonais.
Non, pas du tout. C'est
coréen.
C'est Julien Doré qui chante en tahitien et qui déclare sa flamme à la Polynésie avec Ohoe Tohoe Rima, une reprise d'un artiste hawaïen, Bobby Holcombe. Reprise à retrouver sur la réédition de son dernier album, Aimé encore, attendu pour le 26 novembre. Et ça aussi, c'est de la magie pré-Noël, Laurent. Enfin, c'est la bonne nouvelle du début de la semaine. La fin de la jauge de 75% dans les salles de concert et dans les discothèques mises en place cet été. Certains artistes avaient dû rembourser une partie des tickets, comme IAM, ou rajouter des dates. Excellente nouvelle donc pour le monde du spectacle vivant et de la nuit, qui continue à souffrir du manque de remplissage de certains concerts ou de certaines salles. Mais comme l'épidémie connaît un rebond, passe sanitaire toujours obligatoire et masque, gestes barrières restent fortement recommandés. Et enfin, dimanche soir, au Café de la Danse, un hommage sera rendu à Olivier Libault, une des deux têtes pensantes de Nouvelle Vague. Olivier Libault disparu soudainement le 29 septembre dernier, alors que le groupe devait repartir en tournée. On l'avait suivi dès ses débuts avec les objets tout au long de ses différents projets, comédie musicale et haute tribute. Dimanche, ses chansons seront vivantes, interprétées par ses anciens complices, Barbara Carlotti, Dominique Dalcan, Dorian, Élodie Frégé, Ignatius, J.P. Nataf, Elena Noguera, Mélanie Pain, Charlotte Savary, Albin de la Simone et bien d'autres. So long, Olivier.
We only make it last for Nigel. We only want what's best for him. We only make it last for Nigel. Nigel just needs this help.
Voilà, c'est la fin de ce fil musical pour aujourd'hui. Gaby Hartmann, Horus, Grégoire Hetzel, il y a une information qui a retenu plus particulièrement votre attention. Ah, tout le monde est quoi?
Ça, c'est la maîtresse d'école.
Ah bah dis donc, je ramassais les commis, je vous ai pas prévenu.
Dans ce que vous avez
dit. Oui, tout à fait.
Ah bah oui.
Que les albums de Noël, les chansons de Noël, ça marche pas vraiment en France.
Ouais.
Et que ça marche énormément. Enfin, dans les pays anglo-saxons, aux États-Unis, c'est
inévitable, c'est curieux,
dans la carrière de beaucoup d'artistes de faire des. Et c'est curieux que ça marche pas ici. Ouais.
Ça vous intéresserait, par exemple, de faire une chanson de Noël?
Pourquoi pas.
Et vous, Horus?
Pourquoi pas?
C'est timide, hein.
Et vous, Grégoire Hetzel?
Une chanson de carnaval.
Moi, j'ai créé une musique pour un film qui s'appelle Conte de Noël.
Conte de Noël, ah. Exactement. Bah oui.
Vous, qui commence par une musique de Noël.
Et qui a bien marché. Oui. Comme quoi, Noël, c'est quand même porteur ici en France.
Côté club.
Sur France Inter.
Gaby Hartmann, c'est l'heure de votre live. Enfin, ça y est, je vous laisse regagner vos complices derrière nous au micro. Hélène Beaumont à la contrebasse, Paul de Robillard à la guitare. Le titre que vous allez interpréter, c'est « I'll tell you something », un extrait de votre EP, « Always seem to get this wrong ». Peut-être un mot sur le titre que vous allez interpréter, Gaby Hartmann, avant de chanter.
Alors c'est une chanson que j'ai composée et les paroles je les ai co-écrites avec un compositeur américain et ça s'appelle I'll Tell You Something et c'est une chanson, c'est une confession d'amour. Voilà.
Confession intime ce soir, oui, sur France Inter.
Smile and break into. I'll tell you something, I'll tell you something. I wish it wasn't true. There isn't someone who ever made me blue. How could anybody run like rivers cold? I'll tell you something, I'll tell you something. If there is a hand to hold, there isn't someone who I've ever, ever told. I went out searching, but we speak honestly, there is a song, there isn't song who I've ever, ever told. Lele le 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 le.
Qui chante avec des gestes extrêmement délicats des mains qu'elle porte devant elle, entourée de Hélène Beaumont à la contrebasse, Paul de Robillard à la guitare, prise de son, Florent Layani et Selim Guerebi, merci à vous. Gabi Hartmann, auteur, compositrice, interprète, guitariste, vous signez votre premier album, votre premier EP, ça va arriver l'album, 5 titres, Always Seem to Get Things Wrong, une traduction pour ma mère qui nous écoute ce soir et qui ne comprend pas la langue de Shakespeare.
Il semble que je me trompe souvent.
C'est vrai ?
Oui, oui, c'est vrai. À quel niveau ? C'est pour ça que j'ai choisi cette chanson. Et que dans mon EP, je parle beaucoup de l'erreur, de faire des erreurs.
Et en amour aussi ?
Ça... si ça, ça peut arriver, oui.
Très bien. Alors, je le disais en ouverture, des titres en français. Mm-hmm. Oui, monsieur Horus, en français, en anglais et en brésilien, extrait.
Eu vi coração de palhaço chorando calado, uma lágrima azul de alegria correndo no rosto, fazendo caminho de encanto no doce retrato, marcando de amor a euforia de peito afoito. Era coração transparente, menino travesso, teimoso tacando, tinindo trincado de ardor.
Le titre, vous le dites ?
C'est Coração Transparente.
Exactement. Le brésilien, contre toute attente, n'est pas votre langue maternelle. En fait, vous l'avez appris quand vous êtes arrivé au Brésil, à 20 ans, pour faire des études de Sciences Po.
C'est ça.
Je ne comprends rien. Que faites-vous là ? Qu'est-ce qui s'est passé au Brésil ?
En fait, je suis partie faire un échange, un Erasmus, parce que la troisième année de Sciences Po, on le fait à l'étranger. Ouais. Et moi, j'ai choisi le Brésil, j'ai choisi Rio. Et là-bas, là-bas, j'ai plutôt fait de la musique que des études de Sciences Po. Ouais.
Et vous en faisiez avant de la musique, avant de partir ?
Ouais, j'en faisais déjà avant. Ouais.
Quel genre de musique ?
Plutôt jazz, non ?
J'écoutais déjà de la musique brésilienne, du jazz, de la soul, vraiment de tout, de la chanson française, de la pop.
Quels sont les artistes que vous avez rencontrés justement au Brésil ? Est-ce que vous vous êtes même produite là-bas, sur scène ?
Ouais, j'ai joué là-bas. C'est la première année où j'y étais. Après, je suis retournée, je suis revenue, mais j'ai joué là-bas, dans des bars, des lieux, dans Rio, où j'ai appris à chanter les chansons brésiliennes.
Avec une technique particulière ?
Une technique, non, j'ai appris en voyant les gens chanter et j'ai pris des cours de guitare là-bas, avec un prof.
Est-ce qu'on chante des choses différentes en français, en anglais, en brésilien ? J'imagine que oui, les thèmes ne sont pas les mêmes. La façon de poser la voix n'est pas la même.
Complètement.
Non plus.
Et je pense qu'on est traversé par des émotions différentes. Selon les langues, et les sonorités sont très différentes dans chaque langue. Et j'aime beaucoup explorer ça, en fait. Ça vient de j'ai un intérêt pour les langues, j'aime beaucoup parler. parler les langues. Et du coup, ça se reflète dans ma musique.
Ensuite, vous avez poursuivi des études d'ethnomusicologie, donc on a bien compris que Sciences Po, c'était carrément fini. Ça, c'était à Londres.
Mais j'ai quand même fini Sciences Po.
Oui, bien sûr, ça c'est pour les parents. Qu'est-ce que vous cherchiez dans ces études d'ethnomusicologie ? Je vous pose cette question parce qu'ensuite, vous avez beaucoup voyagé, Afrique du Sud, Guinée, Portugal et aux États-Unis. Oui. Est-ce que ce sont des voyages liés justement à ces études d'ethnomusicologie ?
Alors certains, oui. En fait, l'ethnomusicologie, pourquoi j'ai voulu faire ça ? Parce qu'en fait, j'ai été vraiment marquée au Brésil par la place de la musique dans la société brésilienne, l'importance de la musique dans la culture brésilienne. C'est très très fort là-bas. Et en fait, c'est pour ça que j'ai voulu m'intéresser plus à ça en fait. Et l'ethnomusicologie, c'est ça en fait, c'est étudier la musique dans les sociétés, dans les cultures, leur histoire. Et par exemple, après, je suis partie en Afrique du Sud. Là, j'ai fait en fait une recherche dans le cadre de mes études.
Sur quoi ? Sur quel sujet ?
Et je l'ai fait sur la censure musicale pendant l'apartheid.
Voilà. Ouais, ça c'est vraiment l'élève de Sciences Po qui l'a fait. Ça vous dit quelque chose, Grégoire Hensel ?
La censure musicale, il y en a eu beaucoup, dans beaucoup de pays d'Afrique en particulier. Ouais. Oui. Je me suis en Éthiopie comme ça. Il y a eu toute une période dans les années 70. Avec le label Ethiopia, je sais pas si vous connaissez
cette musique. Sûr, ouais.
Et ça s'est brusquement arrêté à cause d'une dictature militaire. Je sais plus, la musique était interdite, etc.
Et alors, on continue ce voyage, parce que manifestement, c'est le cadre de votre vie. C'est à New York que vous avez fait une rencontre déterminante avec le producteur Jesse Harris, compositeur pour Norah Jones. Donc, on voit bien quand même une filiation, dans vos compositions. Sur quelle base vous vous êtes rencontré avec Jesse Harris? Est-ce que vous aviez une culture musicale commune?
En fait, on s'est rencontrés dans un studio d'enregistrement. C'était un compositeur brésilien qui m'avait... on s'était rencontrés à Paris. Et il m'a fait venir à New York pour écrire une chanson, chanter une chanson sur son album, où il voulait plein de chanteurs et d'artistes qui chanteraient des chansons. Et lui a été invité, en fait, aussi. Et on s'est rencontrés comme ça. Et il a beaucoup aimé, mon travail, ma voix. Et du coup, m'a proposé de réaliser mon premier projet de musique. Parce que j'avais pas, je chantais beaucoup, mais j'avais pas encore forcément composé des chansons ou pensé à un projet, à enregistrer vraiment mon premier projet.
Votre voix, est-ce que vous l'avez travaillée de façon traditionnelle, c'est-à-dire avec une formation, avec un professeur ? Parce qu'il y a des sonorités de jazz que vous savez particulièrement bien faire, en fait, Gimme Hertman.
Si j'ai travaillé avec un prof de chant.
Ouais, un prof de chant.
Oui, j'ai eu des cours de chant.
C'est ça.
Ouais.
Et vous, Horus ?
Oui, aussi. Ouais, carrément.
En France ?
En France, aux États-Unis, en Angleterre. En fait, je me suis aussi formé à une technique, je suis aussi coach vocal. Donc j'ai été des deux côtés, je suis allé aussi me former à l'étranger en technique vocale. Ouais.
Marion ?
Gabby Hartmann, vous chantez comme, oui, proche du jazz, mais une façon assez retenue. Pas du tout démonstrative de la technique jazz.
Je pense que ça vient de la musique brésilienne. Je pense que j'ai été très influencée par la musique brésilienne et des chanteurs comme des chanteuses comme Gal Costa ou Caetano Veloso. Je pense que ça vient de là. J'ai tellement écouté cette musique et elle est en moi quoi que. De là.
Alors le premier EP, c'est une carte de visite qui montre tout ce que vous savez faire, donc plusieurs voix, plusieurs directions, les sonorités de jazz, le côté brésilien. Et le dernier titre est intéressant, c'est La Mer, parce que là, il est question d'autre chose dans le texte. Il est question du sort des migrants. Vous vous souvenez de ce qui a motivé cette chanson ? Est-ce qu'il y a un fait particulier, une image à un moment donné ?
En fait, ça fait cette chanson La Mer, ça fait depuis plusieurs années que je voulais l'écrire. Parce que j'ai grandi dans un environnement familial où on est très engagé sur la question de l'accueil des migrants, où j'ai participé à des collectifs d'aide aux migrants, j'ai organisé des concerts entre Paris et Calais, j'ai travaillé avec des musiciens soudanais. Donc depuis longtemps c'était là et je voulais qu'elle soit dans mon EP. Donc j'ai commencé. En fait l'idée c'était de partir de la chanson de Charles Trenet, La Mer.
Mais oui, ça on avait bien compris.
Et
au
montrer
départ,
que actuellement la mer a une autre image quoi aussi. Enfin...
Vous continuez à avoir des actions ? J'imagine que vous regardez ce qui se passe du côté de la Biélorussie en ce moment.
Oui. C'est vraiment terrible ce qui se passe et. Et on instrumentalise, on criminalise les migrants et les gens qui aident les migrants. Et c'est une situation, en fait, c'est pire en pire. C'est-à-dire que quand j'ai écrit la chanson, je pense que actuellement là, elle est sortie cette chanson et donc les gens m'en parlent, mais je trouve que la situation s'est empirée en fait.
Ça, c'est certain. On se retrouve toutes et tous dans un instant après Laura Cahen, complètement désarmée peut-être par rapport à ce que vous venez de dire, sur France Inter.
Mes pieds se sont brisés, le temps s'écoule et moi je coule tant qu'il est temps. J'ai tant d'années que mes pieds sont lourds. Ça y est, le vent est entré, mais maman, je passe mon tour. J'ai
Inter.
Horus, Gaby Hartmann et Grégoire Hetzel sont réunis ce soir dans Côté Club. Grégoire Hetzel qu'on accueille ce soir sur sa musique de film pour Amant de Nicole Garcia. Le film sort demain en salle. Le morceau qui est derrière nous, c'est Overdose. Et il en est question dans cette histoire de trio amoureux. Au départ, ils sont deux amants, Simon et Lisa, joués par Pierre Niney et Stécie Martin. Simon est dealer et sa vie va basculer le jour où son meilleur ami et client va mourir d'overdose sous ses yeux. Il quitte la France. Lisa, elle, reste à Paris. Pas de nouvelles. Alors elle va se marier avec Léo, joué par Benoît Magimel. Il est riche, il est super beau, il est cultivé, il travaille dans les assurances et hasard ou coïncidence, quelques années plus tard, ce couple va recroiser Simon pour le meilleur ou pour le pire. Je n'en dis pas plus. C'est pas mal comme teaser, Grégoire Hetzel.
Excellent.
Excellent. Il a eu peur que je dise tout.
Exactement.
C'est votre première fois avec Nicole Garcia, Grégoire Hetzel, vous qui avez une carrière qui a commencé au début des années 2000, j'y reviendrai. Elle fait appel à vous, qui avez donc commencé à donc au début des années 2000, Mathieu Amalric, Emmanuel Bourdieu, Arnaud Desplechin, Catherine Corsini, donc une image du cinéma français, votre génération. Elle vous a parlé des films dont vous aviez écrit la musique pour venir vous chercher.
Pas du tout. Non, je me souviens pas qu'elle ait parlé des films que j'avais composés auparavant. Non, non, tout de suite, elle m'a montré son film. Enfin, et on a tout de suite travaillé sans préface, quoi. Enfin,
le film existait déjà?
Oui, oui, le film existait déjà. Il était en train d'être monté. En fait, je sais pas si je dois le dire, mais elle avait déjà usé de quelques compositeurs avant moi.
D'accord. Vous êtes arrivé.
C'est la meilleure. C'est la solution que je préfère, mais c'est pas mal quand on arrive, vous savez, en pompier.
Ah bah oui. Mais le sauveur. L'homme providentiel, le compositeur providentiel.
Mais en fait, non. Ça a duré 6 mois. Non, je dis 6 mois. J'exagère un peu, mais ça a duré 2-3 mois. Et parce qu'il y a eu le confinement, donc ça ralentit beaucoup l'inspiration. Mais ça a duré très longtemps. J'ai rarement autant travaillé qu'avec Nicole Garcia.
Alors c'est intéressant parce que je me suis demandé si vous avez regardé son cinéma pour comprendre la façon dont elle a de travailler la musique. Parce que à chaque film, il y a un nouveau compositeur, ou voire plusieurs, si manifestement elle les écume les uns après les autres. Il y a eu Philippe Sard, Angelo Badalamenti, Marc Ribot, Éric Neveu. C'est curieux quand même cette façon de fonctionner, alors que vous êtes assez fidèle à une famille de cinéastes.
Oui, on est fidèle à moi aussi.
Oui, bien sûr.
Mais
en fait, qu'est-ce qu'elle attend de la musique d'un film, Nicole Garcia?
En fait, elle cherche, comme elle doute beaucoup, elle cherche, et on se met à douter avec elle, et on cherche ensemble. Et je dis, sur certains morceaux, par exemple, j'ai fait je suis arrivé jusqu'à des V15, je ne sais pas si vous imaginez, donc j'ai fait
20 versions.
Oui.
15 enfin, versions.
Oui, c'est... Bah, par exemple, sur le morceau que vous venez de passer, l'overdose, c'est assez étrange. On a vraiment cherché, et au final, c'est né d'une improvisation en studio avec Vincent Segal. Et qui a débloqué la chose. Enfin, moi j'avais vraiment écrit des choses, enfin au millimètre, avec des pianos préparés. J'avais fait vraiment des versions orchestrales. J'avais fait des choses électro, tout ça. Bon, il a écouté tout ça et ensemble je l'ai dirigé tout ça et on a fait le morceau en 1 heure au studio. Alors que j'avais passé des heures et des heures et des semaines sur ce morceau de l'overdose.
Elle donne des pistes d'écoute.
Parfois, oui, j'ai eu quelques morceaux en exemple, parfois plusieurs versions, ça se fait avec la monteuse, enfin, dans laquelle elle montait les morceaux, elle me faisait écoute ça, là, oui, ça c'est, elle m'a donné des pistes, ouais. Mais qui finalement n'ont pas été d'ailleurs suivies en général.
Vous préférez travailler sur scénario, avant même que le film existe, ou sur les images?
Il y a tellement de solutions et de cas, c'est complexe à dire. Par exemple, là, en ce moment, je travaille sur scénario, mais je sais que, souvent, quand je commence à travailler au scénario, finalement, la musique qu'on va composer n'aura rien à voir avec celle que j'aurais composée au scénario. Donc, je préfère arriver quand même au moment du montage.
Dans le film, il y a Pierre Niney. Pierre Niney, vous avez déjà travaillé avec lui. Est-ce que ça a une incidence quand on compose la musique avec l'acteur qui est sur l'écran qu'on connaît? Parce que, par exemple, on a eu ici Vladimir Cosma qui nous dit qu'il écrivait véritablement, et nous l'a dit, sur le corps, sur la démarche, sur la silhouette des acteurs. On n'écrit pas pour Louis de Funès comme on écrit pour Pierre Richard. Certes, c'est dans le cadre d'une comédie. Est-ce que vous aussi, le fait d'avoir des acteurs vous intéresse pour la composition?
Ah, mais c'est sûr. Il y a ça, il y a les voix. Les voix, je veux dire, on n'a pas la même instrumentation avec une voix grave qu'avec une voix de femme. Et évidemment, après, il y a toute l'expression, le jeu, les cris, que ce soit murmuré. Enfin, oui, je joue sans cesse avec les acteurs, bien sûr. Et aussi avec le rythme des images, avec le rythme. Alors, vous dites la course, etc., mais c'est aussi le rythme du montage lui-même qui crée la dynamique musicale. Oui.
Alors, j'ai regardé donc la BO. Donc les différents titres que vous avez donnés au morceau, il y a un seul morceau qui porte le nom d'un personnage, c'est le dernier, c'est Lisa Ridler.
Thank you.
intéressant parce que je vous regarde, vous êtes très attentif à votre écoute. Vous êtes en train d'écouter véritablement ce morceau. On est très loin d'Overdose et ça montre vraiment tout votre répertoire, hein, de film en film. Il y a vraiment, vous offrez absolument tout genre de musique. Quel est le travail que vous avez fait sur ce morceau-là qui porte le nom du personnage, Lisa Redler?
Ça, c'est le morceau de fin. Donc, c'est, ouais. C'est l'ouverture. En fait, le film est très, très sombre et ça, c'est l'ouverture lumineuse et pleine d'espérance de la fin du film. Donc, le film, on va dire, s'ouvre, voilà, sur cette, vraiment, c'est vraiment la musique qui prend en charge là, ce qu'on peut espérer.
Pour les...
Et sinon, techniquement, je sais pas, mais musicalement, c'est un ground, c'est une musique qui est fondée sur un ostinato. Voilà, c'est une tradition qui existe depuis la musique baroque de Purcell et Bird, etc.
Votre nom est emblématique d'un cinéma français, je le disais tout à l'heure, Mathieu Amalric, Emmanuel Bourdieu, Corsini, Louis Garrel, que vous allez retrouver d'ailleurs dans un prochain film, et surtout associé quand même à celui d'Arnaud Desplechin depuis 2004 pour Rois et Reines, nomination au César. Arnaud Desplechin que vous avez retrouvé pour son prochain film, Tromperie. Alors, amant et tromperie, on peut dire que vous y allez, vous. Vous formez vraiment un couple réalisateur-compositeur avec Arnaud Desplechin.
J'ai l'impression, parce que je crois qu'on a fait 10, on va travailler sur le 11e
film, j'ai rien regardé.
Et oui, alors c'est ce qui est drôle, c'est que maintenant, enfin, ça a été au début, c'est drôle d'ailleurs comment la confiance avec un réalisateur et la connaissance intime de son cinéma, de ses réactions, de sa sensibilité fait qu'on travaille de mieux en mieux et de plus en plus rapidement. C'est vraiment très très étonnant. C'est-à-dire, je vous parlais là des V15, etc. Mais lui, souvent, c'est V1. Enfin, il arrive dans la nuit, je compose. Il vient l'après-midi. On discute, on regarde. J'improvise, même parfois j'improvise. Il me dit, ah, ça j'adore. Là. Et on enregistre les choses que j'improvise. Je travaille dans la nuit. Il revient le lendemain et dit voilà, c'est ça. Enfin. Et maintenant, je compose parfois, je sais pas, en une semaine, 15 jours.
Pour son film à lui, oui. Tellement vous connaissez.
Oui. Et d'ailleurs, ça peut être un peu dangereux parce que on peut être confortable dans une esthétique. Mais je crois pas que ça soit le cas parce que je vois que là, que je change aussi avec lui.
C'est-à-dire, vous changez, par exemple.
Non, mais par exemple, là, j'ai composé quelque chose de très minimaliste et de très brut et pas du tout sophistiqué, alors que d'habitude je compose des choses plus tortueuses avec lui, plus contrapuntiques, et là c'est des choses très harmoniques. Parfois il y a des morceaux avec deux accords, trois accords, donc je vois que ça évolue, et c'est marrant parce que c'est aussi, je pense, mon influence, parce que moi j'adore les compositeurs minimalistes, et lui il vient plutôt de la musique série, enfin il adore Schoenberg, Weber,
exactement,
etc.
Ouais. Et musique décaphonique,
exactement, et donc j'ai réussi après moi-même avoir écrit pour lui des musiques sérielles et des choses comme ça, voilà, le mener vers un minimalisme là vraiment extrême, parce que je vous dis il y a des morceaux avec deux trois accords.
Vous avez l'air très content.
C'est pourquoi j'ai mis d'ailleurs une semaine. C'est vrai que c'est un peu la solution facile.
Et avec Louis Garrel, parce que là aussi, c'est quelque chose qui se poursuit dans, même s'il a moins de films à son actif, c'est quelque chose qui se poursuit.
J'adore travailler avec lui parce que c'est totalement irrationnel. Enfin, ça dure très longtemps parce qu'il vient voir, mais c'est avec lui là que je travaille. Enfin, je travaille sur le scénario. Enfin, j'ai lu son scénario.
Ah,
d'accord. Et en ce moment, il est en repérage. Il est le film n'est pas encore tourné, mais j'adore parce qu'il vient me voir la nuit, il est comme moi, on travaille la nuit, enfin, on aime la nuit, donc il débarque chez moi, 2h, 3h du matin sur son scooter. Enfin, puis voilà, pareil, j'improvise, hop, on parle, on regarde des bouts de films, des choses qui n'ont rien à voir. Là, en ce moment, il me fait écouter des musiques des années 60, italiennes des années 70.
C'est... Mina ?
Oui, par exemple. Et donc c'est très, c'est très, très, très plaisant.
Alors, compositeur de musique de film, compositeur d'opéra aussi, mais aussi de chansons françaises. On vous doit le premier album de Marie Modiano, oui. I'm Not a Rose, en 2006. Composition, enfin co-composition elle, arrangement et réalisation,
oui.
Mais une seule fois.
C'était lié vraiment à notre relation. Enfin, aussi. Et c'est vrai qu'après, j'ai fait parfois des chansons, mais d'ailleurs avec elle, on a continué de faire des chansons pour des films. Donc parfois j'ai composé pour des films avec elle, mais sinon j'ai pas réécrit vraiment de chansons à part pour des films. Mais j'adorerais, enfin pourquoi pas.
Mais vous attendez quoi?
J'attends de rencontrer quelqu'un, voilà, c'est ça.
Une muse.
Oui, c'est vraiment ça.
On fait pas appel à
là,
vous
c'était
pour ça
elle, sinon je... Et ce que j'ai adoré aussi, c'est que j'avais jamais écrit de chanson et j'ai fait le conservatoire, j'ai vraiment passé par la musique classique. Et là, pendant 1-2 ans, je me suis mis à écouter tout et à me faire une culture pop que je n'avais pas totalement. J'avais la culture de mon adolescence, si vous voulez. Mais après, j'avais abandonné pour me mettre à des études sérieuses, vous voyez. Et donc de découvrir de tout un pan de musique que je n'avais pas naturellement acquise. Enfin, j'ai adoré ça.
Eh ben, on attend ce nouveau virage dans quelques temps, j'espère, Grégoire Hetzel. On va se quitter avec un attrape-rêve, un concept déposé par Polo et Pan. Je vous laisse apprécier la chose. Eh bien voilà, côté club, c'est fini, c'est la fin. Merci à tous les trois. Grégoire Hetzel, merci.
Merci à vous.
Dès demain, on entendra votre musique dans le film Amant de Nicole Garcia. La croisade de Louis Garrel, ce sera au cinéma le 22 décembre. Tromperie d'Arnaud Desplechin le 29 décembre. Et je signale la rétrospective Nicole Garcia à la Cinémathèque française jusqu'au 26 novembre. Gabi Hartmann, merci à vous.
Merci.
Premier EP, c'est un coup de maître. Always seem to get things wrong. Avec deux scènes le 22 novembre et le 16 décembre au Duc des Lombards à Paris. Horus, merci à vous.
Merci.
Premier album, Chimera, vous serez le 19 novembre à Vannes. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain. En lui, Gontard sera notre invité demain avec à ses côtés Vincent Maël Cardona pour un film sur les radios libres. Pour vous Marion ?
Ce sera le jour des nouveautés nouvelles, 300 à découvrir.
Côté club, c'est une équipe qui veille sur vos deux oreilles. Stéphane Le Guenec à la réalisation, Marion Guilbault, Alexis Goyer, Virginie Rosic, le trouble de la programmation et enfin Valentine Chedebois en solitaire aux playlists. Côté club, on ferme, je vous souhaite le bonsoir.